Chapitre 9. Après la minute d'oubli qui avait jeté Angèle dans les bras d'Henri, tous les deux, loin de chercher à se reprendre, s'étaient abandonnés, tous les jours plus ardemment, à la grande douceur de s'aimer. L'entraînement des sens, qui, dans les aventures de ce genre, est presque toujours la raison dominante de l'homme, n'avilit pas, ou presque jamais, chez la femme, le sacrifice qu'elle fait d'elle, de son corps et de sa réputation. Angèle se donnait toute, exclusivement et humblement, parce qu'elle se considérait comme la servante du jeune homme, comme sa chose, parce qu'elle aimait absolument son maître. Henri, au contraire, tout pénétré qu'il fût d'une sympathie très vive pour sa maîtresse, n'avait éprouvé d'abord qu'une satisfaction égoïste. Il échappait à sa solitude, il avait un cœur où versaient ses douleurs. Toutefois, cette inégalité, qui, à la longue, fut devenue un germe de discorde, ne dura pas. Le garde général était bon, très sensible, facile à attacher. La conscience de sa responsabilité d'une part, l'infinie tendresse qu'il découvrait chaque jour dans le cœur de la jeune fille d'autre part, lui firent bientôt vouer une affection sincère à la timide et aimante créature qu'il avait cru prendre d'abord pour une consolation passagère. Très doucement mais sûrement, elle le conquit ainsi par son amoureuse confiance, l'accapara peu à peu tout entier. Et, lorsqu'ils furent montés au même diapason de tendresse exclusive, aveugle, passionné, ce fut un temps de bonheur parfait, en dépit, à cause peut-être, de la fragilité de ce bonheur et des dangers dont il le sentait menacé. Des deux côtés, en effet, les mêmes tracas surgissaient. Avec le printemps, la mère Mazra était sortie de son lit. Mais cette amélioration inespérée dans sa santé, loin de lui adoucir le caractère, l'avait, par une anomalie inexplicable, rendue plus acariâtre et plus exigeante que jamais. Diminuer les charges de la famille ne lui suffisait pas, elle eût voulu encore être en mesure de travailler. Et, au lieu de se montrer reconnaissante envers Angèle de l'énergique dévouement qu'elle avait montré, elle traitait la pauvre enfant de paresseuse en la voyant demeurer, bien malgré elle, inoccupée au logis. Si la jeune fille sortait, étrange contradiction, c'était encore pis. Le prétexte de l'ouvrage à chercher ne prenait plus. La vieille femme avait des soupçons et c'était des scènes à propos de rien, des questions embarrassantes, des allusions brutales, quelquefois des accusations formelles. « Ah, si j'étais sûre que tu as un amant, tu ne resterais pas une minute ici, entends-tu bien ?» Angèle tremblait sous ces menaces fréquentes. Son amour, dans lequel elle se retrempait, la soutenait seule. Néanmoins, sa vie devenait un enfer. La misère, avec la confiance, est dure mais supportable. La misère, avec la défiance et la discorde, est intolérable. Cette situation atroce durait depuis 2 mois, quand une nouvelle surprise acheva d'accabler la pauvre petite. Cette surprise était une promesse de maternité. D'autres qu'elle, pratiques et rouées, auraient vu dans cette promesse un gage de sécurité pour l'avenir. Elle, timide, timorée, s'épouvanta. Non pas que l'idée d'être abandonnée avec un enfant l'effleura même une seconde. Mais, au contraire, sachant la générosité d'Henri, elle eut peur que son amant ne prît trop à cœur ses nouvelles responsabilités, ne se crût désormais uni à elle par des liens indissolubles, sacrés, et ne subît de ce fait de plus grandes contrariétés. Aimer Henri pour lui, pour être la confidente de ses peines, pour l'entourer de tendres prévenances, très bien. Ça avait été son rêve, sa constante préoccupation, tout son bonheur. Mais devenir pour lui un embarras, une entrave, un fardeau, non, ça, jamais, jamais. Et telle était l'ardeur de la pauvre enfant à se dévouer toujours, que la pensée de déplaire à son amant la bouleversait, seule, à un moment où elle aurait dû d'abord pleurer sur elle et songer aux redoutables éventualités qui la menaçaient. Savoir souffrir avec courage semble un privilège des êtres faibles. Angèle eut l'énergie de garder pour elle, pendant 6 semaines, la torture qui la rongeait. Ce fut, à la fin, la réflexion qui la dompta. Elle comprit que cette situation ne pouvait s'éterniser, et, puisque tôt ou tard elle devait parler, Mieux valait que ce fût tout de suite. Parler à qui? À Henri? Oh non, non, elle n'oserait jamais. Elle prévoyait trop bien, d'ailleurs, sa noble réponse, cette réponse qui lui ferait à la fois tant de plaisir et tant de peine. Non, non, elle n'aurait pas la force de lui dire ça. Alors, à qui s'adresser? À sa mère? Angèle hésita longtemps, craignant de ne rencontrer chez elle qu'indifférence ou hostilité. Mais la mère, quelque dure qu'elle soit pour ses enfants, est toujours la mère, c'est-à-dire une femme qu'on se représente comme d'une essence spéciale, pétrie de bonté et d'indulgence, toujours prête à pardonner, à conseiller, à aimer, immuable dans sa tendresse, toujours soucieuse de mériter la confiance de ses enfants, de partager, d'alléger leurs peines. Malheureusement, cet état souffre de si fréquentes exceptions qu'il est presque devenu une chimère. Angèle, affolée, n'avait pas le choix, elle se résigna. Un jour donc, elles étaient seules à la maison, les petites étant à l'école, elle tomba à genoux près du fauteuil où la vieille femme traînait sa lente convalescence et, dans un suprême effort, elle confessa tout en quelques mots. La mère Mazerat ne dit rien. D'abord, figée par la surprise, elle demeura immobile, les bras ballants. Puis sa face jaunie, amaigrie par les longues souffrances, se crispa comme du parchemin au feu, sa bouche se plissa, pleine d'amertume et de dégoût, ses yeux flambèrent de haine. Et, se dressant toute droite, elle qui pouvait à peine se tenir sur ses jambes flageolantes, elle montra la porte à sa fille, sans un mot, d'un grand geste tragique. Angèle courba la tête, frissonnante, sous la malédiction, mais elle ne songea ni à résister, ni à demander une explication ou un délai. Elle se releva, franchit le seuil sans se retourner, et s'éloigna, brisée. Dehors, elle continua, droit devant elle, sans savoir, sans rien voir, les cheveux au vent, rasant les murs. Où allait-elle ? Instinctivement, vers le seul endroit au monde où elle put recevoir aide et consolation, quai des Chartrons, numéro 33, au premier étage, la porte à gauche, cette petite porte cachée par une tenture d'Orient qu'elle avait franchie déjà si souvent, toujours avec les mêmes palpitations d'indéfinissables émotions. Henri était là, à son bureau, près de la fenêtre, la tête entre ses mains, à rêver. En une seconde, il fut debout, et Angèle tomba dans ses bras en sanglotant. Puis, tout doucement, au milieu de soupirs et de larmes, le grand aveu fut fait. Le visage éclairé par une joie sincère, le jeune homme dit d'une voix attendrie « Comme je suis heureux! Tous mes vœux sont exaucés. Au moins, je suis sûr maintenant de ne plus vous perdre. » Et c'était si doux, cette noble et simple réponse, dont la généreuse délicatesse dépassait tout ce qu'elle avait prévu, qu'Angèle faillit s'évanouir. Il fallut toutes les tendres caresses, les ingénieuses attentions de l'amour pour avoir raison de cette faiblesse. Alors, le calme revenu, Henri ajouta « Je ne veux pas que vous rentriez ce soir chez votre mère. Vous coucherez ici. Vous n'aurez pas peur, j'espère. Demain, nous chercherons un moyen de fléchir cette trop sévère maman. Au revoir, Angèle. Je suis forcée de rentrer, moi, d'assister au dîner de famille. Au revoir, à demain. » La soirée de ce jour-là fut celle où M. d'Agincourt et son neveu eurent un si long entretien en se promenant sur les allées de Tournies.